Eh bien, bonjour à tous.
Bonjour.
Bonne fête à tous les grands-pères. Je ne savais pas que c'était la fête des grands-pères aujourd'hui. Alors, j'ai reçu une belle chemise. C'est dommage que vous ne la voyez pas sur Internet, mais vous allez bientôt la voir parce que la vidéo est faite et on va mettre tout ça prochainement. Mais j'ai une belle chemise, merci les enfants. C'est vrai qu'elle est bien. Puis ils ont vu que j'ai minci, donc ils ont pris la bonne taille. Parce que toutes les autres chemises, je flotte dedans.
Parce que.
Ah bon, le Michou qui a dit quelle taille il fallait prendre. Oh, ben, formidable. Bien, ben, j'espère que vous allez bien, les grands-pères, les grands-mères, tout le monde, les tontons. Voilà. Ce matin, je vais vous parler, ça va être une étude plus qu'une... Enfin, ça va être aussi une exhortation, évidemment, mais ça va être une étude. Parce que je crois de tout mon cœur que ce qui est pire que l'ignorance, on dit souvent, par manque de connaissance, mon peuple périt, mais il y a pire que l'ignorance, c'est l'illusion de la connaissance. Les gens qui pensent connaître, mais qui ne connaissent pas, qui ne savent pas, qui se permettent de dire des choses épouvantables. Dernièrement encore... Un ami, quelqu'un que j'aimais beaucoup, a publié sur YouTube une prédication où il dit que la Nouvelle Jérusalem viendrait, descendrait en France. Voilà, quoi, je veux dire, c'est... Là, c'est du niveau de la psychiatrie, quoi, je veux dire, c'est effarant. J'ai un autre ami, là, ce matin, parce que j'ai mis un article sur... l'amour de Dieu, mais comment se fait-il alors, puisque Dieu nous aime, qu'il se passe toutes ces choses-là, et j'explique, enfin le texte explique que Dieu a envoyé son Fils, que nous devons faire la paix avec lui, mais que si nous ne voulons pas faire la paix, ben, nous laisse dans nos ténèbres, et que ce n'est pas lui qui fait toutes les horreurs qu'on voit. Alors il me dit, ah oui, un Dieu d'amour qui laisse des milliers de gens mourir. Oui. Bon, je ne vais pas dire son nom parce que je suis gentil, mais voilà quoi. Je lui ai répondu, est-ce que c'est Dieu qui a tué les 4 policiers à la préfecture là-bas à Paris, ou est-ce que c'est un malade mental qui n'a rien compris? Hein, faut chercher un petit peu, faut réfléchir. Pourtant c'est un érudit, mais il est érudit, je veux dire, il a une mémoire remarquable, donc ce qu'il lit s'en souvient, mais est-ce que c'est de l'intelligence? Ben, je sais pas trop, là, parce que dire des bêtises comme ça, alors que ça fait plus de 30 ans qu'il me connaît, puis je comprends pas, je ne comprends pas. C'est l'illusion de la connaissance. Je lui dis, tu ne connais pas Dieu? Il dit, parce que toi, tu le connais? Je dis, oui, je le connais. Et alors, il n'y a plus rien à dire. Ben non, il n'y a plus rien à dire, à moins qu'il ne cherche. Voilà, il faut chercher. Si on... mais quand on est sûr d'avoir la connaissance... Et puis quand on s'illusionne, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. L'autre là qui vient dire que la Nouvelle Jérusalem descendra en France, il dit aussi que les gens qui perdent un enfant, c'est parce que Dieu juge qu'il n'était pas digne d'avoir cet enfant, alors il l'enlève pour le mettre dans une autre famille. Et c'est la comment il appelle ça, la
proche incarnation.
Vous savez, des gens qui... Voilà, la réincarnation. Voilà, ça fait plaisir, hein, pour les papas, les mamans qui perdent un bébé, qui perdent un enfant. Et tu dis ça, c'est bien, hein, mais en tout cas, c'est pas dans la Bible, hein, c'est pas dans la Bible. Mais il se permet de dire, le Seigneur m'a révélé, comme, voilà, le Seigneur m'a révélé, il a dit, le Seigneur m'a révélé en 2017, en février, que... la Nouvelle Jérusalem viendrait en France, et puis il parle même de l'Amblore. Bon, il n'y habite plus maintenant. Donc voilà, ça a dû changer encore. C'était le portail de l'Amblore, maintenant c'est le portail d'ailleurs. Enfin bon, c'est n'importe quoi, c'est des prophètes. C'est infernal, l'illusion de la connaissance est infernale. Et ce matin, je ne vais pas lui faire de la pub à ce mec-là, mais je vais vous expliquer une chose que peu de chrétiens savent, et je pense qu'il est nécessaire de le savoir, de le comprendre, afin de choisir notre camp fermement. Fermement. Dans la Bible, la cité de David est appelée Sion. Alors, vous avez les antisionistes enragés, n'est-ce pas? Mais vous allez comprendre. Alors, je lis dans 1 Roi, chapitre 8, verset 1. Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David qui est Sion l'arche de l'alliance de l'Éternel. Ça fait pas tilt dans votre tête? Ça fait pas tilt dans votre tête? Beaucoup croient que la cité de David, c'est Jérusalem. Ben non, non, pas du tout. Ce texte nous dit que Salomon a assemblé à Jérusalem les anciens d'Israël pour transporter l'arche de l'alliance depuis donc la cité de David à Jérusalem, dans le temple qu'il construisait. Vous voyez, quand on lit vite, on se fait des idées, et on ne comprend pas bien, puis on dit des choses, puis on les répète, puis on croit que c'est vrai, à force de répéter mille fois une chose, ben ça devient une réalité, une vérité. Et la cité de David est appelée Sion. Pourquoi ça échappe aux chrétiens de base? Ben parce que la cité de David se trouve en réalité au sud-est, hors des murailles de Jérusalem. Je vous ai mis sur Révélation Bible la photo, la carte, où est cette fameuse montagne qui s'appelle Ophel. Et puis plus tard, on a désigné toute cette région sous le nom de Sion, et ainsi Jérusalem est devenu Sion, et particulièrement le mont du Temple est devenu Sion. Dans Joël 2, 32, il est écrit que le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Ah, ça montre bien qu'il y a, n'est-ce pas, deux choses. Donc dans la cité de David et à Jérusalem. La première fois que la Bible parle de Jérusalem, la ville s'appelait Salem. Ça n'a rien à voir avec la Salem des États-Unis où ils ont brûlé les sorcières. C'était Melchisédek qui en était le roi, on trouve ça dans Genèse 14, 18. Et puis au temps de Josué, le roi de Jérusalem se nommait Adoni-Tzedek, parce que les rois changent. La ville de Jérusalem, elle se nommait alors Jébus. Tout ça dans Josué 15, 8. Et c'était des Jébusiens qui l'habitaient. Mais Josué, qui envahissait le pays d'Israël, vous vous rappelez, Josué c'était le second de Moïse, et Dieu avait dit « Je te donnerai un pays où coule le lait et le miel ». Et c'était Israël, donc Dieu donne ce territoire à Israël, et bon, il était habité, mais voilà, Dieu a décidé de donner. Si Dieu décide, c'est comme ça, il ne sait pas autrement, puis ce n'est pas M. Machin Tartampion qui va contester ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Il faut choisir son camp, soit on est pour Dieu, soit on est contre Dieu. Et Josué, il est écrit qu'il n'a pas pu chasser les Jébusiens de la ville de Jébu. Les Jébusiens ont continué à habiter Jébu, c'est-à-dire Jérusalem, avec les fils de Juda. On trouve ça dans Josué 15, 63. C'était la cohabitation, hein, un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et ce n'est que longtemps après que David s'est emparé de la forteresse de Sion et il en a fait sa cité. Je crois que je dois avoir la référence, c'est 2 Samuel 5, 7, voilà ce qui est écrit. David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera les boiteux et les aveugles, qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi on dit l'aveugle et le boiteux ne trouveront pas dans la maison. David établit dans sa forteresse qu'il appela, s'établit dans la forteresse qu'il appela la cité de David, et il fit de tous côtés des constructions. Et voilà, l'Éternel, il devenait de plus en plus grand, et l'Éternel était avec lui. C'est devenu sa cité. Donc voilà, Sion était au départ une forteresse au sud-est, hors des murs de Jérusalem, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc je le redis, Sion était une place forte, une forteresse des Jébusiens, près de Jérusalem, et donc la cité de David au départ était en dehors de Jérusalem. Alors qu'est-ce que signifie le mot Sion? C'est intéressant aussi de savoir qu'est-ce que signifie le mot Sion, pourquoi ce mot-là? Eh bien, l'origine du mot Sion, c'est Sion. Et la traduction littérale du mot Sion, c'est une borne ou un monument servant à conserver ou bien la mémoire des morts. C'est quand même étonnant. C'est très étonnant, vu les révélations que nous avons reçues ici à la communauté. Au temps du roi Josias, voilà ce qui est arrivé. Le livre de Dieu avait été perdu, et puis des gens, en faisant de l'ordre dans le temple, ont retrouvé le livre de Dieu dans la maison du Seigneur. Josias, ça, s'est assis à écouter la lecture du livre de la loi, et il a décidé de purifier le pays de toutes les idoles et de toutes les abominations, de toutes les choses qui étaient interdites. On trouve ça dans 2 Rois 22, 8 à 20. On en dira un bout tout à l'heure, c'est très long, mais c'est... ils détruisent les autels, ils brûlent les os des prêtres qui avaient été enterrés là, ils les réduisent en poussière, ils les jettent, enfin, voilà. Et à un moment donné, alors que Josias faisait brûler les ossements des sépulcres de ses idolâtres, il a vu quelque chose qui a attiré son attention. Alors je vais vous lire, ça se trouve dans 2 Rois 23, 16-17. Voilà ce qui est dit. Josias s'étant tourné, ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres et il les brûla sur l'autel et le souilla, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Un homme de Dieu qui avait annoncé que ça arriverait. Il dit, quel est ce monument que je vois? Et les gens de la ville lui répondirent, c'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Bethel ces choses que tu as accomplies aujourd'hui. Et il dit, laissez-le, que personne ne remue ses os. Il conserva ainsi ses os avec les os du prophète qui était venu de Samarie. Et bien, prophète qui était venu, et son histoire se trouve dans 1 Roi 13, 1, 5. Vous voyez que les anciens connaissaient les prophéties. Hein. Dans 1 Roi 13, 1, 5, c'est écrit, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il a prophétisé le nom. Et pas n'importe quoi. Hein. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et on brûlera sur toi les ossements des hommes. Et ce même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est au-dessus se répandra. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il avança la main dessus l'autel en disant, saisissez-le! Et la main de Jéroboam, que Jéroboam avait étendue, devint sèche et il ne put la ramener à lui. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Et Josias, l'homme dont le nom a été prophétisé, arrive quelques années après, et il dit, mais c'est quoi ça? Ben, c'est le tombeau de ce fameux homme de Dieu. On ne sait même pas son nom, ce prophète, on ne sait même pas son nom. Ce qui est important, ce n'est pas le nom de la personne du prophète, c'est la parole qu'il a donnée et qui s'accomplit. Et dans ce texte, eh bien, on conserve donc la mémoire de ce mort, donc le mot « Sion » se trouve là. Il faut savoir toutes ces choses, peu de gens les savent. Ce prophète, donc venu de Samarie, on ne connaît rien, on ne connaît pas son nom, mais on vient de lire son histoire. Donc, conserver la mémoire des morts, le mot Sion se trouve dans le texte, et puis c'est devenu, là, phonétiquement, maintenant on dit Sion. Alors, Sion, Jérusalem. Sion était situé sur une colline au sud du mont du Temple de Jérusalem, et cette colline est appelée colline d'Ophel. Elle existe toujours. Vous allez sur Internet, vous tapez colline d'Ophel, vous allez la voir. Voilà. Alors, pendant l'exil à Babylone, Sion a symbolisé dans la tête des gens Jérusalem. Et parce que c'était tout près. Et l'espérance de retourner à Jérusalem, c'est comme dans le livre de Mormon quand c'est écrit que Jésus naîtrait au pays de Jérusalem. Alors les gens disent, ah voyez, c'est faux parce que Jésus n'est pas né dans le pays de Jérusalem. S'il est né dans le pays, dans la capitale était Jérusalem. Mais quand on ne veut pas comprendre, ou qu'on fait semblant de ne pas comprendre, on trouve toujours tous les défauts à toutes les écritures. Jérusalem, au temps du roi David, n'était pas, à proprement dit, la cité de David. C'est pas là qu'il avait construit sa maison. C'était la colline qui était tout près de Jérusalem. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Aujourd'hui, le mont Sion, c'est le prolongement sud de la colline où se trouve le quartier juif de la vieille ville. J'y suis allé avec Michou, on a marché là. Le mont Sion, il est séparé de la vieille ville par la muraille qui était construite par les Turcs, les Ottomans, on disait. C'était un empire qui avait été fondé à la fin du XIIIe siècle. Et c'est les Juifs qui sont revenus de Babylone qui ont donné au site du temple le nom de Sion. C'est là que c'est venu. C'est comme ça que c'est venu. Et Esaïe a prophétisé la gloire de Sion. Alors, on peut lire, c'est dans Esaïe 60. Voyons, on fait quelques lectures, mais si on veut connaître, il faut savoir. Si pour savoir, il faut lire. Si on ne lit pas, on ne sait pas. Esaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaîtra. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent et viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors, et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer, c'est-à-dire des peuples, se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tu seras couvert d'une foule de chameaux, de dromadaires, de madians, d'éphas. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or, de l'encens, ils publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi, les béliers de Nébajoth seront à ton service. Ils monteront sur les autels, sur mon autel, et ils me seront agréables. Je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leurs colombiers? Car les îles espèrent en moi, les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or. C'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu quand Israël est redevenu un pays. À cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie, les fils de l'étranger rebâtiront ton mur. Hein, c'est sûr que. Alors on dit oui, l'Amérique, ils financent beaucoup Israël. Ben, voilà, voilà. Il faut choisir son camp. Pour choisir son camp. Pour ramener de loin les enfants avec leur argent, leur or, à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie, les fils de l'étranger rebâtiront tes murs et leurs rois seront tes serviteurs. Car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Dieu a frappé Israël et l'a dispersé dans le monde entier, mais dans sa miséricorde, il a pitié de lui. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leur roi avec leur suite, car la nation et le royaume qui ne te servira pas périra. Je relis, mais je me suis trompé parce que je vais relire correctement. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme, le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. On verra ça un jour. On verra ça un jour. Ça vient. Ils t'appelleront la ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Alors que tu étais délaissé et haï, que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations et tu sauras que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Au lieu de les pierres, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages, ni de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Ça, c'est quelque chose qui est en marche. C'est quelque chose qui est en train de s'accomplir. On a vu déjà les bateaux arriver, les avions arriver, remplis de juifs qui ont fait leur alia, qui sont venus et qui sont établis là-bas. L'autre prophète, machin, là, qui dit que Jérusalem descendra en France, il est juif en plus. Il ferait bien de retourner là-bas. Il ferait bien de retourner là-bas. Un juif, il devrait entendre, hein, n'est-ce pas, la voix de Dieu qui nous dit de retourner là-bas. Ben, ça, il n'entend pas. Il est curieux, c'est bizarre. C'est quand les juifs sont donc revenus de Babylone que Jérusalem, le site du temple, a été appelé Sion. Et l'autre, un culte qui vient redouter que la nouvelle Jérusalem sera établie en France. Il mélange tout. Parce qu'il est pire qu'un ignorant, il a l'illusion de la connaissance. Et rien n'est pire que l'illusion de la connaissance. Alors qu'est-ce que Sion ? Eh bien, le livre de Mormon nous en parle. Il me dira, t'es mormon ? Mais non, je ne suis pas mormon, je ne suis pas catholique, je ne suis pas protestant, je ne suis pas baptiste, je ne suis pas pentecôtiste, je ne suis pas méthodiste, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Mais ce qui est vrai, je le crois. Il y a du vrai chez les méthodistes, mais ce qui est faux, je ne le prends pas. Il y a du vrai chez les pentecôtistes, mais ce qui est faux, je ne le prends pas. Chez les catholiques, il n'y a pas grand-chose de vrai, hein, mais il y a des belles choses. Je prends ce qui est bien, la musique, et encore. Pardon les catholiques, mais c'est vrai que vous êtes tellement déviés, mais tellement déviés, vous êtes dans une illusion totale. C'est effrayant. Alors qu'est-ce que sur... Alors le livre de Mormon nous enseigne, dans le livre de Moïse 7, 18, 19, il est dit « Et le Seigneur appela son peuple Sion parce qu'il était d'un seul cœur et d'un seul esprit et qu'il demeurait dans la justice et qu'il n'y avait pas de pauvre en son sein. » Curieux, n'est-ce pas ? Et à Jérusalem, la première église était ainsi. Je ne sais pas si vous le savez, mais voilà comment devrait être la véritable église. C'était comme ça au départ, ça va revenir comme ça à la fin. Acte 4, 32, 34, la multitude de ceux qui avaient cru, donc à Jérusalem, lors du jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit était répandu, que l'Église est née là, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur, une seule âme, nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Ils partageaient les choses ensemble. Alors, en plus, le livre de Mormon recommande aux saints, c'est-à-dire aux disciples de Jésus, à ceux qui se sanctifient pour marcher comme Jésus veut qu'on marche, le livre de Mormon recommande aux saints d'édifier Sion partout où ils vivent dans le monde. Vous trouvez ça à la page 197 du Guide des Écritures dans le livre de Mormon. Eh bien, c'est ce que nous faisons chez nous. Nous vivons en communauté. Depuis 1977, nous avons décidé, sur une parole de Dieu, après avoir jeûné, de vivre en communauté. Et c'est ce que nous faisons. Et ben, c'est magnifique, c'est une vie magnifique. Et puis ceux qui n'y comprennent rien, ben, ils continuent dans leur train-train. Voilà, il faut choisir son camp. Et Jérusalem, la Bible nous dit, est une coupe d'étourdissement pour toutes les nations. Et ça veut dire qu'ils seront déséquilibrés, ils seront pris de vertige. Qui ? Les nations. Mais quelles nations ? Ben, les nations qui sont contre Israël. Et c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui envoie ça. On va lire ça dans Zacharie 12, 2. Zacharie 12, 2. On ne peut pas dire, oui, voilà, ces pauvres chrétiens, ils se prennent pour Jérusalem, ils sont frappés d'étourdissement, ils ne comprennent rien, c'est des gagas, parce que c'est ce qu'il dit lui. Là, hein, voilà. Mais le texte ne dit pas ça. Le texte il dit, Zacharie, dans Zacharie 12, 2, on peut tromper un petit chrétien qui ne lit pas sa Bible, mais un chrétien qui lit sa Bible, on ne peut pas lui raconter des bobards. Donc, Zacharie 12, 2, « Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. » C'est pas ce qui se passe ? Et aussi pour Judas dans le siège de Jérusalem, parce qu'ils sont, ils sont dans le bouleversement. Ils sont dans le bouleversement. C'est terrible ce qui se passe pour eux. Une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Tous ceux qui voudront bouger les choses là-bas seront meurtris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement les chevaux et de délire ceux qui les montent. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. Les chefs de Juda diront à leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour. Et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem, pas en France, monsieur Ruiz. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem et le faible sera parmi eux comme dans les jours de David. La maison de David sera comme Dieu, l'ange de l'Éternel devant eux ce jour-là. Je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Israël, contre Jérusalem. Choisissez votre camp. En 68, quand je me suis converti, il n'y avait que les incroyants qui étaient contre Israël. Puis après, il y a eu les catholiques. Maintenant, de plus en plus, on a des protestants qui sont contre. Et puis maintenant, on voit même des évangéliques qui sont contre. Bizarre. Ils sont frappés d'étourdissement. Mais qui c'est qui fait ça ? Jérusalem restera Jérusalem à sa place. La Jérusalem ne sera jamais sur le territoire français. Jamais. Vous pouvez construire un village qui s'appelle Jérusalem, mais ça ne sera pas la Jérusalem de Dieu. Ce pauvre prophète français juif ne connaît pas sa Bible. Il y a Jérusalem la ville, celle qu'on connaît, la première Jérusalem. La première église de Actes 2, 4, c'est ce que la Bible appelle la première église, celle de Jérusalem, la première Jérusalem, et puis la nouvelle Jérusalem terrestre qui, c'est quoi ? Ce sont tous ces lieux où vivent les disciples de Jésus selon Actes 2 et Actes 4. Ça, c'est la nouvelle Jérusalem terrestre. Et la nouvelle Jérusalem céleste, elle descendra du ciel sur la nouvelle terre. Elle descendra après le jugement dernier, après que le mal aura été détruit, après que Satan et tous ses, comment on appelle ça, ses suiveurs sont jetés dans les temps de feu. On peut lire Apocalypse 21, si je trouve Apocalypse 21. Versets 1 et 2. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, parée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Voilà, la nouvelle Jérusalem descend sur la nouvelle terre. Oh, le frère dit, cette nouvelle Jérusalem, elle mesure 2000 mètres de chaque côté, c'est un cube, alors j'imagine pas une ville, un cube de 2000 mètres carrés, de 2000 mètres de largeur, alors une ville de 2000 mètres de hauteur en plus, non, c'est symbolique. Non, c'est pas symbolique. C'est que ça sera une nouvelle terre, des nouveaux cieux, ça sera complètement différent, ça sera pas tout petit comme ici. Il faut prendre des choses qui sont écrites correctement, faut pas, parce que ça t'a pris dans ta tête, dérangé, mais non, si la Bible dit ça, c'est que c'est vrai, puis c'est tout. Ça sera une nouvelle terre. Moi, je me rappelle d'un frère, il nous a quittés aussi, celui-là. Il disait, comment Dieu pourra-t-il détruire Paris, une si belle ville? Oh, qu'est-ce qu'il en a à faire de cette horreur? C'est très beau, c'est vrai, mais ce qui s'y passe, bravo. Il y a des braves gens. Ils seront sauvés, les braves gens qui aiment Jésus. Mais les autres, ils n'aiment pas Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont passer l'éternité avec Dieu? Ils n'aiment pas. Ils ne peuvent pas l'aimer 80 ans, ils vont l'aimer pendant l'éternité. Il ne faut pas me raconter des histoires. Ils choisissent, nous choisissons ici-bas, sur Terre, notre camp. Nous choisissons ce que nous voulons. Et nous aurons dans l'éternité ce que nous aurons choisi ici-bas, sur cette Terre. Vous n'aimez pas Dieu ? Quand vous arriverez devant Dieu, c'est bien, bien, bien. Trop tard, vous n'avez jamais connu. Dehors. C'est écrit. Oh, mais Dieu est amour ou il n'est pas ? Il est amour, mais il n'est pas... Pardon, j'allais dire, il n'est pas con. Faut arrêter, quoi, c'est vrai ? Enfin, oh ! Donc, en réalité, quand on parle de Sion ou de Jérusalem, on parle de beaucoup de choses. Et c'est vrai que l'Église de la Nouvelle Jérusalem, c'est l'Église qui se rapproche le plus de l'Église de Jérusalem, l'ancienne, la première Église, l'Église primitive qui était à Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem, c'est cette Église qui revit de nouveau les choses telles qu'elles étaient vécues à Jérusalem. C'est pourquoi on dit que c'est la Nouvelle Jérusalem terrestre, mais la Nouvelle Jérusalem céleste, c'est autre chose. Elle viendra d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre pour se poser sur une nouvelle terre. Pas tout mélanger, on parle de beaucoup de choses quand on parle de Jérusalem, quand on parle de Sion. Voilà pourquoi nous savons que le mont des Oliviers, c'est le mont Sion où Jésus posera ses pieds. Ça, on le trouve, pardonnez-moi les sectaires, dans le livre Doctrine et Alliance, dans le livre de Mormon, où il est dit, chapitre 33, verset 16-21, ils disent plutôt section, mais c'est la même chose, 33, 16-21, voilà ce qu'il est dit. Entendez et écoutez, ô habitants de la terre, prêtez l'oreille ensemble, anciens de mon Église, et entendez la voix du Seigneur, car il appelle tous les hommes et il commande à tous les hommes de partout de se repentir. Car voici, le Seigneur Dieu a envoyé l'ange criant par le milieu du ciel, préparez le chemin du Seigneur et aplanissez ses sentiers, car l'heure de sa venue est proche, où l'agneau se tiendra sur la montagne de Sion, et avec lui les 144 000 ayant le nom de son Père écrit sur leur front. C'est pourquoi préparez-vous pour la venue de l'Époux, allez, sortez à sa rencontre, car voici, il se tiendra sur le mont des Oliviers, et sur le vaste océan, oui, le grand abîme, et sur les îles de la mer, et sur tout le pays de Sion, il fera entendre sa voix de Sion, il parlera de Jérusalem, et sa voix sera entendue parmi tous les peuples. Ce sera une voix semblable à la voix de nombreuses eaux, comme la voix d'un grand tonnerre qui fera s'écrouler les montagnes, et on ne trouvera pas les vallées. Ah, où est-ce que j'en étais dans mes histoires ? Parce que c'est du mont des Oliviers que Jésus est parti, rappelez-vous. Et les disciples étaient comme ça, regardaient Jésus partir, il était enveloppé par les nuées et tout, puis des anges leur sont apparus, puis ils ont dit, mais qu'est-ce que vous regardez au ciel ? Ce Jésus que vous avez vu partir reviendra de la même manière, au même endroit, sous le mont des Oliviers. Alors avec Michou, on est allé là-bas, on va dire dans Zacharie 14:2-7, Zacharie 14:2-7. Voici le jour de l'Éternel arrive, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. C'est qui dit ça? C'est Dieu. C'est Dieu qui rassemble les nations pour qu'elles attaquent Israël. Pourquoi? Parce que les nations se sont voûtées dans le péché, se sont moquées de Dieu, et Dieu les a abandonnés à leur folie, Romains chapitre 1, parce qu'ils ont fait tout pour que Dieu les délaisse. Alors il les rassemble pour les emmener là, attaquer Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Et l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Les pieds de l'Éternel, oui, les pieds de Jésus. Vous qui croyez à la Trinité, il n'y a pas trois dieux, il y a un dieu dont le nom est Jésus. Et il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, elle à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au temps d'Ozias, le roi de Juda. L'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous ses saints avec lui. Et ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid, il y aura de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir poindra la lumière. Là, en ce moment, c'est la confusion, c'est ni jour ni nuit, c'est n'importe quoi. Mais vers le soir, à la fin de l'histoire de l'humanité, la lumière poindra. Jésus viendra et posera ses pieds sur le mont Sion, sur le mont des Oliviers. Avec Michou, on est allé sur le mont des Oliviers. Jésus ne reviendra pas en France. Ou alors pour faire un peu de tourisme. Non. C'est de la folie de croire ça. Il posera ses pieds sous le mont des Oliviers, qui est face à Jérusalem. Nous avons été avec Michou là. Et j'ai prié pour un jeune homme qui ne mangeait pas bien et qui a été guéri. J'aime Israël, j'aime Jérusalem, non pas de façon sentimentale et bébête, pas du tout, mais je l'aime parce que ce qu'elle représente aux yeux de Dieu, ce qu'elle représente au point de vue prophétique, dans son histoire passée, dans son histoire présente, dans son histoire, dans son avenir. Et en ce moment, nous voyons les nations frappées d'étourdissement au sujet d'Israël et de Jérusalem. N'écoutez pas les médias quand ils vous parlent contre Israël. N'écoutez pas. C'est sûr qu'ils font des bêtises. C'est écrit aussi que c'est une coupe d'étourdissement pour Juda. C'est vrai qu'ils font aussi des énormités. Mais ils ne sont pas encore visités par Dieu. Un jour, ils seront visités par Dieu. Ils tomberont à genoux devant lui, ils reconnaîtront lui qu'ils ont percé. C'est ce qui est écrit. Et pour le moment, ils ne connaissent pas. Pour le moment, ils sont obligés de se défendre aussi. Mais écoutez ce que Dieu dit. Écoutez ce que Dieu dit, pas ce que les médias vous racontent. Surtout pas, surtout pas. Zacharie 12, je vous le lis, verset 1. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples alentour. On l'a déjà lu. Toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Jérusalem restera à sa place, à Jérusalem. Et il détruira tous ceux, toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Voilà ce que vous devez écouter. Voilà ce que vous devez croire. Mais vous n'êtes pas des croyants, vous êtes des idolâtres. Vous n'êtes pas des croyants, vous ronflez dans vos églises le dimanche. Pardon ! Mais je connais, ça fait depuis 68 que je fréquente les églises, je vois bien comment ça se passe. En Afrique, c'est encore pire. Le culte, il commence le matin de bonne heure, il danse pendant 3 heures. Et quand ils sont bien fatigués, ils ont transpiré, qu'ils sont fatigués, ils s'assoient, le pasteur parle 10 minutes, et eux, ils dorment, ils n'écoutent pas. Ils dorment, ils sont fatigués. Avec cette chaleur, et puis ils ont dansé pendant 3 heures. C'est de la folie! C'est de la folie! Écoutez ce que Dieu a à dire! Voilà ce qui attend les nations qui se mettent contre Israël. Voilà ce qui attend les religieux, catholiques, protestants, pentecôtistes, baptistes et tous ceux qui se mettent contre Israël. Voilà ce qui attend Israël. Ils verront, ils sauront, ils pleureront sur celui qu'ils ont percé, nous dit les Saintes Écritures. Alors, vous qui aimez le Seigneur l'Éternel, il faut choisir votre camp. Ne levez pas la langue pour dire du mal d'Israël. Ne levez pas la langue pour faire ça. Laissez ça à ceux que Dieu soulève contre Israël. Dieu soulève les nations contre Israël. Parce que ce sont des pécheurs qui ont refusé Dieu dans leur vie, qui n'ont pas voulu, qui ont péché, qui ont offensé Dieu. Dieu dit « Ok, viande à canon ». Pardon, mais c'est la justice. Il faut arrêter de dire le doux Jésus, le bon Jésus, le Dieu d'amour, l'autre là qui vient avec son Dieu d'amour, qui tue des milliers de personnes. C'est pas Dieu qui tue, c'est les gens qui choisissent le camp de la mort. Tu veux t'éloigner de la vie, ben c'est la mort que tu trouves. Tu veux t'éloigner de Dieu, ben c'est la mort que tu trouves, parce que Dieu est la vie. Et si tu veux pas la vie, tu as la mort. Et puis Dieu te pousse aussi un petit peu parce qu'il veut se débarrasser de toi, parce qu'il ne veut pas de toi, parce que tu ne veux pas de lui, il ne veut pas de toi. Il ne veut pas de lui.
Il ne veut pas des pécheurs, il ne veut pas des gens qui se foutent de lui à longueur de journée, qui blasphèment à longueur de journée. Dieu ne veut pas ça dans son paradis. S'il y a des gens comme ça dans son paradis, je ne veux pas y aller. Je ne veux pas aller au paradis s'il y a des blasphémateurs. Je ne veux pas aller au paradis s'il y a ces saloperies de curés qui violent les gamins, ou d'imams qui violent les gamins, ou de saloperies qui viennent faire péter des bombes ou exploser les gens. Non, je veux, s'il y a ça au paradis, je ne veux pas y aller. Parce que ce n'est pas juste qu'il y ait ça au paradis. Dieu fait un tri, c'est par les boucs et les brebis. Choisis ton camp, si tu peux. Ne levez pas la langue, même si vous avez envie. Ne levez pas la langue contre Israël. C'est Dieu qui les soulève contre Sion, comme il a soulevé Pharaon contre les Juifs. Pourquoi est-ce que Dieu a soulevé Pharaon contre les Juifs? Ça, c'est une grande question. On fait, ah oui, mais alors Dieu, il n'est pas juste. Dieu, il dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Et puis, par derrière, c'est écrit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Mais pourquoi est-ce qu'il a endurci le cœur de Pharaon? Parce que Pharaon se prétendait être Dieu. Ah bon, tu te prends pour Dieu, espèce d'idiot. Ben, je vais te montrer un petit peu. Voilà. Ah bon, tu te crois plus malin que Dieu? Tu crois que tu connais les choses de Dieu parce que tu as vu des trucs à la télé, parce que tu as regardé des machins sur YouTube, ces espèces de folles dingues qui viennent te raconter qu'il y a des Illuminati, qu'il y a des je sais pas quoi, les, comment ils appellent ça, des reptiliens ou à beau filtre, flavouille sous-glissante et compagnie, et tu crois ces conneries? Mais reprends-toi, reviens à la Bible, écoute ce que Dieu dit. Oui, je crie, oui, je suis en colère. Je suis en colère parce que je vois que Jésus revient bientôt et que la majorité du peuple chrétien dort, roupit, ne fout rien. Ah, j'envoie des photos. J'envoie des photos de Nicolas, notre frère qui sera là le 15, qui fait des forages, qui monte des hôpitaux, qui monte des écoles. On lui envoie des dons. Je montre ça. Je dis que Dieu bénisse les donateurs. Et les gens m'écrivent « Amen !» Mais il n'y en a pas un qui donne un bal. Mais vous vous moquez de qui? Foutez le camp de mon site. Sortez de là, je ne veux plus vous voir. Vous êtes malade ou quoi? Ah, mais je ne peux pas, je ne gagne pas assez. Un franc, un euro. Tu ne peux pas un euro. J'ai 2000 personnes qui viennent m'écouter sur Internet. 2000. Si chacun donne un euro, vous voyez ce qu'on peut faire? Si chacun donne un euro une fois par mois, vous voyez ce qu'on peut faire? Mais vous ne le faites pas. La seule chose que vous savez faire, c'est dire « Amen, Amen, Amen !» Mais c'est quoi ça? Alors il y a des introvertis qui viennent sur mon site, je suis obligé d'enlever ce qu'ils écrivent, parce qu'ils disent que vous êtes des idiots. Mais ils ont raison! À la fin, ils ont raison! Les vierges folles! La Bible nous dit qu'à la fin, il y aurait des vierges folles, mais il y en a plein! Amen, Amen! Alors il y en a qui écrivent « Amen » avec 2, 3, 4, 5 et ça serait Amen. Mettez votre main dans votre portefeuille, faites un don. Si vous ne voulez pas me le faire à moi, faites-le à une caritative, faites quelque chose. Soyez bon, soyez gentil, soyez du côté. Jésus dit, aidez les pauvres, c'est ça la vraie religion. C'est de venir au secours de la veuve, de l'orphelin. Vous priez, vous demandez de prier pour votre chat. Non mais ça va pas quoi. Bien sûr que je prie pour votre chat, j'aime bien les animaux. Mais faut pas pousser, regardez un petit peu autour de vous, puis faites du bien autour de vous. Puis votre chat, vous avez qu'à l'amener au vétérinaire. On va coûter le vétérinaire. Après, vous n'avez qu'à pas prendre de chat. Non mais c'est... Je suis énervé ce matin. Ça m'agace. Ça m'agace parce que je vois que c'est de la vraie folie, de la vraie folie, de la vraie folie. Ainsi dit le Seigneur, ce peuple, la nouvelle Jérusalem, va descendre en France, à l'Amblore. Ah oui, février 2014. Et cette année, il n'y est plus à l'Amblore. Pourquoi? Parce qu'on a vendu l'Amblore, parce que l'Amblore ne lui appartenait pas. Puis on a décidé de vendre.
Ah, ben c'est toi qui as péché, t'as vendu l'or blanc.
Si Dieu voulait pas que je vende l'or blanc, on n'aurait pas pu le vendre l'or blanc. Tu as dit devant le notaire, te couvrant de ridicule. Dieu m'a dit que ce château ne se vendrait jamais.
Dieu t'a dit ça?
Il s'est trompé. Il est un vieux Dieu, il dit des bêtises. Non, Dieu ne dit pas des bêtises, c'est toi qui dis des bêtises. Non, mais... Arrêtez avec la folie. Arrêtez avec ça. Arrêtez d'aller sur YouTube pour écouter tous ces ânes gris qui vous racontent des imbécilités. Allez dans votre Bible, lisez votre Bible, mettez-vous à genoux, priez, repentez-vous, humiliez-vous devant la main de Dieu, humiliez-vous devant le Seigneur, il vous dirigera, il vous conduira, il sera votre lumière, sinon votre lumière sera ténèbre et vous serez perdu. Alors là, ce sera pas ma faute, je vous aurai assez dit. Hein. Seigneur Jésus, je te prie de bénir ce que j'ai dit malgré le fait que je me sois mis en colère. Merci Seigneur, amen, au revoir.